France Inter.
Créateur, artiste et designer Ronan Bouroulec a longtemps formé un duo avec son frère Erwan, dessinant, imaginant et façonnant des objets, formes, mobilier ou espaces. Les frères Bouroulec ont notamment conçu l'espace de la boutique A Piece of Clothes du couturier japonais Issey Miyake à Paris et créé des mobiliers pour Rosé, Capellini, Habitat, Cartel ou Vitra, jouant sur l'épure, la lucidité et la modularité. Le tandem s'est illustré dans des domaines variés. En 2021, il s'est approprié tout l'intérieur de la bourse de commerce et on peut voir leurs dessins, sculptures, céramiques, objets et projets de design un peu partout dans le monde. Mais ses frères ne sont pas des siamois. Et c'est Ronan Bouroulec que j'ai en face de moi, homme qui dit embrasser toutes les disciplines comme un ogre et qui fait son œuvre aujourd'hui seul, comme il l'a d'ailleurs commencé. Trois expositions récentes lui étaient consacrées, récemment à Paris et à Tokyo. Deux beaux livres sur son œuvre sont aussi parus, Triptyque aux éditions Settel et Villa Noailles et Day After Day chez Faidon, sorte de journal intime et de travail, visuel, rassemblant 2700 images dans un ordre chronologique, l'occasion de découvrir un intéressant processus créatif. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Ronan Bouroulec.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui a pris le plus de place dans votre cerveau aujourd'hui ?
Le temps et la lumière. Parce que un éditeur venait de Copenhague ce matin, a pris l'avion pour venir voir quelques prototypes, quelques maquettes. Et j'ai observé les objets à la lumière naturelle, il n'y a rien de mieux pour moi. Et je me suis levé ce matin, je me suis rendu compte qu'il faisait quand même très gris, même si l'atelier était assez lumineux. J'avais peur que la qualité des objets soit pas assez évidente, mais donc j'ai passé ma matinée à scruter le ciel. Il est arrivé en taxi-moto de l'aéroport et peu de temps avant son arrivée, le ciel s'est légèrement ouvert. Donc au moment où il est arrivé, la lumière était juste et c'était celle que j'attendais. Voilà. Alors, donc à la manière des paysans, des marins pêcheurs, j'aime beaucoup observer le ciel et imaginer la lumière que j'aurai dans la journée, celle pour dessiner, celle pour regarder les objets.
Alors que là, vous êtes incendié de lumière artificielle dans ce studio de France Inter.
Exactement. Et moi, je suis très sensible à la lumière. C'est intéressant parce que c'est probablement le fait d'être né en Bretagne. Mais la question de la lumière, la question notamment de la lumière artificielle, sa douceur, sa sensualité, sa couleur exacte, est un sujet qui me passionne et je suis assez étonné.
C'est vrai que là, il n'y a aucune sensualité.
Oui, en France en général d'ailleurs, plus on va vers le sud, moins la qualité de la lumière artificielle est travaillée et plus on remonte au nord, c'est-à-dire je pense que les plus experts sont les Suédois, si on descend un petit peu au Danemark, ils sont encore assez bons, les Allemands aussi. Mais dès qu'on passe un peu au sud, je pense que c'est aussi lié au fait qu'on passe plus de temps dehors et moins dans un environnement calfeutré. Ce sujet de la justesse et la lumière est moins travaillé.
Là, vous avez fait allusion à vos racines bretonnes et justement aux paysans. Et vos grands-parents étaient dans l'agriculture, mm-hmm. des deux côtés. Mm-hmm. Et je voulais savoir en quoi ça vous avait influencé. Parce que je sais que le fait que on répare un objet quand il est cassé. Mm-hmm. C'est quelque chose qui vous a beaucoup influencé.
Oui, enfin, j'ai la chance, enfin, comme beaucoup, je pense que la France après-guerre était quand même essentiellement rurale, d'avoir grandi avec dans un environnement plutôt varié, c'est-à-dire celui de mes grands-parents qui étaient agriculteurs, mes oncles l'étaient aussi. Parlait assez mal français, c'était le breton qui était la langue commune. Je ne parlais pas. Donc
vous avez senti le piège?
Non, c'était pas un piège.
Non, j'allais vous faire parler.
Non, mais je sais pas si le fait. C'était pas mal comme position parce que ça permet d'observer sans être forcément acteur d'une discussion et d'être dans un coin à regarder ce qui se passe. Et j'aimais beaucoup cette position.
Vous êtes né à Quimper et avec votre frère Erwan, vous pratiquiez le football, mais aussi le dessin, dans un cours où vous dessiniez 2 heures tous les mercredis, vous de la main gauche et Erwan de la main droite.
Oui, alors bon, c'est important de signifier le fait qu'il y a une grande différence d'âge entre les deux, enfin plus aujourd'hui, 5 ans. Donc, c'est-à-dire que
petit, c'est beaucoup.
Petit, c'est beaucoup. Quand on a 10 ans et que son frère en a 5, quand on en a 15 et qu'il en a 10, il y a des mondes, en fait. Donc oui, j'ai eu la chance de... Enfin, on vivait à la campagne, assez isolé, ce qui obligeait à trouver des alternatives très... très personnel. Donc moi, j'ai beaucoup joué au foot contre un mur, j'ai beaucoup dessiné contre une feuille, j'ai beaucoup joué de la raquette contre un mur, encore une fois.
Contre ?
Ben, contre, avec. Ouais. ça se discute, mais effectivement, ça oblige à occuper son temps, à trouver, moi, le dessin, et très rapidement était une manière de me plonger dans quelque chose, d'être happé, de fuir un certain nombre de sujets probablement, et donc d'élaborer une forme d'imaginaire ou de routine, voilà.
Le dessin, on va y revenir évidemment, parce que c'est une grande partie de votre œuvre. Quelle est la dernière chose que vous ayez dessinée ?
Alors je dessine de manière assez... Il y a deux grands... Il y a deux situations différentes. La première étant le croquis étant un outil pour essayer de vérifier ce qu'on a en tête et qu'on n'arrive pas exactement à se représenter mentalement. Donc la manière dont deux morceaux de bois se rejoignent, la manière dont un tube est soudé à un autre. Des fois, ça peut servir que de faire un croquis. C'est aussi un outil d'échange avec un ingénieur, avec un producteur, avec un assistant, un artisan.
Ça peut vous arriver de comprendre quelque chose en le dessinant ?
Bien sûr. Alors, les choses se sont inversées, mais avant, c'était nécessaire. Je pense que je faisais au moins un carnet de croquis par jour, en répétant quasiment la même chose, mais en essayant de rentrer un peu plus dans le détail. Et c'est comme ça que travaille beaucoup de chercheurs, entre guillemets, qui cherchent à trouver la bonne géométrie, et notamment les types d'assemblage. C'est le croquis qui est l'outil principal, à mon sens. Après, le fait d'être aujourd'hui, de devoir travailler pendant plus d'une trentaine d'années, j'arrive de plus en plus, d'une manière assez précise, à imaginer les choses, à me les représenter assez précisément, je me répète, mais... Il y a un designer important qui s'appelle Vico Magistretti, il est mort, expliquait qu'un bon projet, un projet qu'on peut décrire par téléphone. C'est-à-dire qu'il est en fait suffisamment clair, suffisamment précis, qu'on arrive à trouver la manière de le décrire. Donc de plus en plus, j'arrive, enfin, encore une fois, c'est l'avantage d'être, de travailler depuis longtemps, d'avoir un certain nombre de choses en tête, j'arrive à... précisément imaginer les choses, et je peux en parler au téléphone avec un de mes assistants qui peut à peu près transcrire cette idée en maquette. Mais voilà.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Je suis avec le designer et artiste Ronan Bouroulec. Nous sommes évidemment en imagination à Quimper. Vous avez 15 ans pendant que je vous parle. Et vous rejoignez la section art appliqué. Et il paraît que c'est à ce moment-là que vous pensez que votre vie commence.
Oui, elle commence tard en effet. Mais oui, c'est quelque chose de formidable. Ma vie change radicalement puisque c'était vraiment l'ennui au collège, et d'un seul coup, il y a à peu près une vingtaine d'heures qui est dédiée à la photographie, au graphisme, à la géométrie, à l'objet, et j'ai la chance d'avoir à Quimper des professeurs extraordinaires, et ma vie s'ouvre complètement. J'ai l'impression d'être monté dans un train à cette époque-là, et ce train continue à rouler.
Et votre père était hyper actif, et ça vous permettait aussi de trouver le calme quand il vous forçait à faire des tâches dans le jardin?
Ben disons que le dessin, c'était une manière de faire quelque chose. Je pense pas que mes parents comprenaient trop ce que je voulais être, ce que j'étais, en fait, je crois. Donc il fallait être actif dans cette famille, il fallait faire quelque chose. Lire, c'était réservé aux soirées.
Vous lisiez tous ensemble ?
Pas forcément, mais c'est une situation rurale où il y a tellement de choses à faire. Il faut couper du bois pour se chauffer. Il faut couper les haies. Donc depuis, je déteste les haies taillées. Il faut tailler la pelouse. Je préfère quand les herbes sont hautes. Et je pense que sur un plan écologique, c'est quand même beaucoup plus juste. Voilà, donc il y avait toujours des choses à... un truc à bouger, une pierre à déplacer. Et moi, j'aime, je crois, la contemplation. Je suis un contemplatif beaucoup plus qu'un acteur, je crois. Donc le dessin était l'outil idéal. Et on me laissait un peu tranquille quand je dessinais. C'était respecté.
Vous avez commencé seul avant de vous associer à votre frère et ça a commencé, le succès a commencé en 98 avec une carte blanche de la valorisation de l'innovation dans l'ameublement au Salon du Meuble à Paris. Vous y présentiez seul une cuisine désintégrée qui fut un succès immédiat. De quoi s'agissait-il ?
C'est difficile de reparler d'une cuisine.
Vous pouvez me le décrire.
Je peux vous le décrire. Alors c'est une époque. Ça paraît assez normal aujourd'hui, mais c'était il y a 30 ans. Presque 30 ans, 25 ans. C'est un plan de travail qui est un plan de travail libre sur 6 pieds. Qui a pour objectif de ne plus être coincé dans la cuisine, mais être plutôt installé n'importe où à partir du moment où il y a un point d'eau. C'était un moment où les pièces s'ouvraient, les cuisines étaient moins dédiées à une pièce fermée. Il y avait quelque chose lié à l'espace. Il y avait cet imaginaire new-yorkais des grands lofts et d'un plan très ouvert avec des fonctions qui d'un seul coup se rassemblaient. On pouvait avoir un canapé, une cuisine, un lit dans la même pièce. Il y avait pour moi tout un imaginaire qui venait encore une fois d'un milieu rural qui était tout à fait nouveau. Cette cuisine vient après différentes expositions que j'ai pu faire auparavant, mais c'est un moment où d'un seul coup les éditeurs italiens s'intéressent à mon travail. Et c'est l'ouverture, ce projet paraît dans tous les magazines, Instagram n'existait pas, et avoir une parution dans un magazine à l'époque, ça avait une certaine valeur, et donc voilà, ça ouvre une carrière.
Et alors justement, là on parle d'espace décloisonné, de liberté, d'ouverture, mais qu'est-ce que le lit clos, au sujet duquel on peut lire un grand succès à 12 exemplaires jamais commercialisés?
Oui, alors la cuisine c'est plutôt moi, enfin c'est moi, Erwan était mon assistant à l'époque, et le lit clos c'est plutôt Erwan, rendons les choses... Le lit clos vient d'une inspiration rurale en Bretagne comme en Roumanie comme dans le sud de l'Espagne quand les maisons étaient si petites et qu'il fallait quand même créer de l'intimité, les lits étaient des boîtes avec une porte coulissante dans lequel on se glissait à plusieurs, en général un couple, mais dans certains cas encore plus de personnes. Mes grands-parents sont nés là-dedans, mais mon père, je crois, il a dormi aussi un petit peu. C'est une réalité. C'est pas nostalgique, ça, mais il y a quelque chose d'un ordre ancien, voilà.
Ça vous a aussi inspiré cet espace familial, une table pour Vitra appelée Join, une table où on pouvait mettre des séparations entre les êtres ou les voir.
Oui, c'est une situation. On était invités dans les années 2000 à réfléchir à la question de l'environnement de travail. J'avais l'impression que c'était une erreur de casting parce que moi j'ai eu la chance de ne jamais travailler pour personne et donc la question qu'on nous posait c'était d'essayer de trouver des alternatives pour des centaines de personnes travaillant sur des plateaux ouverts. C'était l'arrivée des ordinateurs portables, le fait de pouvoir se brancher. Donc je pense qu'on invente à cette époque-là de très grandes tables dans lesquelles on arrive. Et on se connecte, sur lequel on peut à la fois être concentré, mais en même temps organiser une réunion. L'idée était de gagner de l'espace pour avoir des canapés plus loin, pour varier dans la journée des moments et des postures, amener aussi dans ce monde qui était un monde très gris et très chromé, une certaine sensualité, une certaine douceur, l'absorption des sons. Aujourd'hui, ça semble encore une fois très banal, mais si on prend ça il y a 25 ans, je pense que c'était assez nouveau. D'ailleurs, ça a été énormément copié de mauvaise manière, puisqu'en fait, c'était une solution pour densifier l'espace. Et en fait, on voit aujourd'hui ces grandes tables avec des gens alignés comme des poulets, et c'était pas du tout l'idée. Donc, voilà.
Renan Bourlec, mon but n'est pas de vous faire commenter chacune de vos œuvres par ordre chronologique, mais il y en a quelques-unes que j'ai sorties tout de même de votre biographie, parce que je trouve ça intéressant. Est-ce que vous voulez nous dire un mot soit de l'œuvre Algue, ou soit de l'œuvre Sérif ?
Je vais parler des algues.
Ouais.
L'algue est un objet assez étrange, qui est un petit élément injecté en plastique qui est une forme arborescente avec au bout de chacune de ses branches une petite un petit cylindre qui permet de les connecter ensemble. Ça permet de créer des parois qui sont des parois qui sont pas des parois opaques, mais qui jouent un rôle d'écran, de séparateur. Et cette forme végétale permet de construire des parois extrêmement importantes, très grandes. Par exemple, au musée des arts décoratifs, cette paroi faisait, je sais pas, 16 mètres par 10. Il y a cette petite pièce en plastique, une grande élasticité. Voilà, donc c'est un truc très surprenant parce que une dizaine de millions de pièces ont été produites.
Mais c'est rentré au MoMA.
C'est rentré au MoMA. Et ce qui est surprenant, c'est ce que j'aime dans certains des objets qu'on a pu dessiner ou que j'ai pu dessiner. C'est comme une chanson, c'est un espèce de succès à la fois populaire et un succès aussi d'institution. Donc la première fois que ça a été exposé au MoMA dans une très grande dimension, c'était assez beau. J'étais content de deux choses. Premièrement, de les voir au MoMA, mais en bas, dans un restaurant un peu cradingue de sushi, il y avait quelques algues qui étaient aussi un peu grasses, qui étaient aussi fixées sur la vitrine. Et donc quand un projet fait un peu le tour de la boucle, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
Vous avez commencé à travailler seul, ensuite il y a eu une grande collaboration avec votre frère. En ce moment, vous faites à nouveau chemin séparé. Est-ce que vous pensez que vous allez vous reformer comme certains groupes de rock à l'occasion ?
Ben, c'est toujours difficile. Oui, c'est tout à fait possible. Je pense que c'est... Bon, moi j'ai eu la chance de commencer très tôt, à 18 ans. Donc de faire une fois un stage d'un mois qui s'est plutôt bien passé. Et après, de vivre de peu et donc d'être très concentré sur mon travail. Erwan m'a rejoint en 98, je crois d'abord comme assistant, un peu parce que j'avais la chance d'avoir du travail, mais de ne rien gagner. Donc je crois qu'il m'a aidé comme on aiderait un frère qui déménage ou son cousin qui coupe l'herbe parce qu'il va falloir la rentrée pour l'hiver. Il y a quelque chose d'un ordre familial. On a eu la chance ensuite. Erwan a pris une importance considérable. On a commencé à co-signer les choses. On a travaillé ensemble pendant une dizaine d'années, vraiment face à face. Il n'y a pas de couple équivalent qui existait, en tout cas dans le milieu créatif, je crois. Et puis les intérêts sont tellement vastes. Notre travail va de... J'ai un plaisir immense à travailler sur différents sujets. À la fois, l'artisanat me passionne, l'industrie aussi, le numérique, les petites cuillères, mais l'échelle de la ville. Donc, les sujets sont très vastes et je pense qu'on a eu certainement des intérêts, la chance de rentrer dans des sujets très divers. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on s'est non pas séparés, mais nos projets ont continué, dissociés.
Ronan Bouroulec, parlons maintenant de votre œuvre en solitaire, comme un cow-boy. Alors, j'aimerais parler de quelque chose que j'ai trouvé très beau et très émouvant. Vous avez dessiné la tombe d'un ami, Pierre Keller, ancien directeur de l'École cantonale d'art de Lausanne. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'inspiration que vous avez eue pour cet endroit de recueillement ?
Bon, c'était un homme extraordinaire qui était à la fois formidable et détestable, mais dans le fond, il était quand même extraordinaire.
Comme tous les gens intéressants.
J'ai beaucoup aimé Pierre, qui était quelqu'un qui n'avait peur de rien, pouvait faire n'importe quel projet, il trouvait toujours les solutions. C'était vraiment, je crois, un homme du 19e, intrigant, formidable. Voilà. Et il est mort il y a quelques années, il habitait près de Lausanne, à Saint-Saphorin, et il y a un cimetière très beau dans lequel il avait réservé un emplacement, alors qui est légèrement en surplomb du lac, donc il y a une vue extraordinaire. C'est un homme qui dormait très peu, qui se couchait jamais, qui faisait la fête tout le temps, et la manière dont j'ai réglé il y a une pierre tombale qui, à mon avis, est bien dessinée en marbre, qui a une forme assez douce. Il y a un banc qui
tubulaire.
Il y a un banc tubulaire et il y a une lanterne qui est à la fois une lanterne et une petite salle d'exposition. C'est un mât avec un cylindre d'une trentaine de centimètres qui s'illumine la nuit. Pierre était un oiseau de nuit, donc les gens qui passent dans la route en bas voient toujours cette lumière allumée comme s'il était encore là. Et le cylindre dans lequel est installée cette lumière est aussi un cylindre sur lequel il y a une petite plateforme qui tourne dans laquelle on peut poser un objet. L'idée étant que des objets, des petites expositions ont lieu de temps en temps avec des objets qui font penser à Pierre, qui sont en rapport avec Pierre, que les gens viennent boire un verre, voilà, sur ce banc et viennent regarder cet objet tout en regardant le lac. Voilà.
Surplombant le lac de Brennilis, la chapelle Saint-Michel a retrouvé une seconde jeunesse. Tout juste restaurée, elle s'offre de nouveau au regard des visiteurs depuis ce matin.
Je l'ai vu l'année dernière à la télé au moment des incendies, des monts d'arrêt. Voilà. Et Dieu merci, on l'a sauvé.
Si sa toiture a été refaite et la cloche réinstallée, c'est surtout à l'intérieur que la chapelle a changé. Murs enduits de chaux, charpente neuve et mobilier nouveau enchantent les visiteurs.
Elle est magnifique. C'est vrai que la restauration a quand même la met en valeur encore. Et non, plus d'une très grande sobriété. Moi, c'est ce qui m'a frappée. Hein, le miroir au fond, l'autel, les chandeliers, enfin voilà.
Le 19-20 de Roger Bendaillon sur France 3 Bretagne en 2023. Renan Bouroulec, il y a autre chose de très très beau que vous avez imaginé. Enfin, ce ne sont pas les seules belles choses que vous ayez imaginées, mais c'est suite aux incendies de l'été 2022 qui ont dévasté plus de 2000 hectares dans les monts d'Arrée en Bretagne. La chapelle Saint-Michel de Brasparts, qui a été entièrement restaurée avec le financement de François Pinault. Vous avez dessiné l'ensemble du mobilier ecclésiastique de la chapelle, comprenant l'autel, la croix centrale, les portes-cierges, ainsi qu'un grand miroir rond et flou qui capte la lumière naturelle. Et on dirait une lune d'argent, et ça m'a fait penser à vos miroirs flous. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce projet et sur ce que sont les miroirs flous ?
Oui. Donc le projet, vous l'avez décrit, c'est cette petite chapelle du 17e qui est accrochée comme un coquillage sur ce mont, qui est le mont le plus haut du Finistère.
Elle vous faisait peur, petit ? Cette chapelle.
Elle me faisait peur parce que c'était le chemin qu'empruntait mon père pour aller le week-end chez mes grands-parents. Et ce paysage est magnifique, mais il a un côté très désolé. On montait jamais en haut de ce mont, donc on voyait toujours cette chapelle en contre-plongée. Il y avait quelque chose de très étrange. C'est un endroit très étrange, une force extraordinaire. Voilà, donc elle a brûlé, mais elle avait déjà brûlé quand j'étais enfant. Donc il y a eu plusieurs incendies. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les flammes se sont arrêtées autour de cette chapelle, ce qui rajoute encore au côté mystérieux de cet endroit. Et la question m'a été posée de dessiner le mobilier liturgique, et c'est un projet, je pense, assez réussi. Je suis pas croyant, mais le sacré m'intéresse beaucoup. La manière dont les objets produisent une atmosphère, c'est la chose qui est l'objet de mes recherches. Donc je crois que ça fonctionne assez bien. Là aussi, c'est surprenant de voir que beaucoup de Japonais se déplacent pour voir cet endroit. Les gens du coin qui étaient contre le projet l'ont en fin de compte embrassé. Il y a quelque chose d'un ordre. J'ai eu la chance de travailler avec des artisans qui habitaient tout près, à l'intérieur de pierres formidables, Christophe Chigny, un forgeron, Mathieu Cabioche, qui lui aussi a des mains d'or. Le projet est d'une très grande simplicité, mais je crois que cette simplicité donne une certaine force. On est vraiment dans une situation très, très, très dénudée. Le sol, c'est la terre au sol. Il y a deux blocs de pierre qui sont taillés, ciselés d'une manière très délicate, ce qui fait qu'il y a une certaine vibration. C'est pas coupé, c'est vraiment taillé. Le métal, l'acier est martelé. Cet ensemble vibre, et on a au mur un miroir. Enfin, on n'a pas le droit d'utiliser ce terme parce que les miroirs sont interdits dans les lieux sacrés.
Ah oui.
Enfin, ils sont pas forcément. En tout cas, ce mot a été mis de côté. Mais pour moi, d'ailleurs, c'est pas un miroir, c'est plutôt une lumière. C'est-à-dire que c'est une pièce qui a été réalisée à Venise. C'est un grand cercle d'un mètre de diamètre qui est coulé en verre, qui fait 5 cm d'épaisseur. Le verre est coulé sur une sur une plaque d'acier. Quand le verre touche l'acier, quand il emprisonne de l'air, le choc thermique donne une certaine vibration, comme l'eau lorsqu'on souffle sur une surface plane, comme le vent, le vent qui se lève, qui crée une légère risée. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ensuite, c'est argenté. Et ça capte la lumière, ça l'emprisonne. Donc, lorsqu'on arrive par la porte ouest, on ouvre cette porte et d'un seul coup, il y a comme une apparition qui a lieu.
On dirait une lune d'argent comme sur certains tableaux d'Anna Eva Bergman, l'épouse de Hans Hartung.
Oui, ça pourrait être. Il y a quelque chose de. Enfin, ce qui est surprenant, je crois, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas une représentation, c'est quelque chose qui est à quelques millimètres près, si on bouge légèrement, qui vibre. Donc on a beaucoup de mal lors de la première vision à comprendre ce qui se passe devant soi.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Le morceau Day After Day du groupe Badfinger, et vous me voyez venir, Renan Bouroulec, c'est pour parler de votre bel ouvrage du même titre, paru en 2023 chez Faydon, qui rassemble plein d'œuvres que vous avez fait paraître sur Instagram entre 2014 et 2022, 2700 images dans un ordre chronologique. Pourquoi vous avez choisi ce titre? C'est comme un journal intime de travail?
Je photographie en permanence les choses, mes maquettes, les dessins, la lumière sur un objet. Pour moi, c'est un outil dans mon iPhone, je crois, qui a 130 000 images.
Il a une très bonne mémoire, alors.
Oui, parce que je l'ai vu récemment. Ah, il a une très bonne mémoire, oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Et c'est un outil permanent. Enfin, pour moi, la photographie est une manière de regarder les choses et c'est aussi une manière de partager, parce que à l'origine, ce sont des photographies qui ensuite, qui au fur et à mesure sont publiées de temps en temps, enfin certaines d'entre elles sur Instagram. Et c'est Instagram est pour moi une manière de montrer ou d'essayer d'expliquer la sensibilité des projets à travers un regard, enfin, à travers des images qui sont les miennes. Moi, je me suis souvent senti très dépossédé de projets, puisque une chaise que j'ai pu dessiner, qui se retrouve dans la vitrine d'un magasin, peut me paraître complètement étrangère. C'est un peu comme un ami qu'on semble aimer, enfin, qu'on aime tellement et qu'on voit à distance avec 10 personnes qu'on déteste. D'un seul coup, on reconnaît plus cet ami. Donc voilà. J'aime beaucoup de manière très artisanale à la fois dessiner les objets, les photographier, les expliquer. Donc Instagram est un bon outil pour moi.
Vous êtes votre propre directeur artistique et vous parlez souvent de flux, d'improvisation, d'état quasi méditatif dans le dessin, vous qui avez la grande crainte de la répétition. Et justement, en fait, vous dites que le dessin, presque, ça vous a permis de survivre par rapport aux productions industrielles qui ont tant de contraintes.
Oui, alors moi j'adore les contraintes. La chose, c'est qu'en général, entre le croquis de départ, le fait que l'objet existe chez un ami, il faut des années. C'est-à-dire que c'est passionnant. C'est des discussions avec des ingénieurs, c'est des discussions sur la section d'un tube, sur le fait que ce sera trop fragile ou trop lourd. Enfin, il y a énormément de contraintes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par contre, je suis boulimique et j'ai besoin de faire des choses. Et le fait, le dessin est pour moi quelque chose qui n'a à voir qu'avec moi, c'est que je peux me plaindre. c'est aussi la manière d'exprimer des choses assez différentes. Le fait de faire des objets, quelque chose d'assez optimiste en général, le dessin c'est une manière aussi d'exprimer différents types de sentiments, de sensations, voilà.
Alors justement, Renan Bourlac, je vous ai demandé quelque chose à faire découvrir aux auditeurs et vous avez apporté un feutre.
Alors c'est pas un feutre, c'est
un pinceau à calligraphie.
C'est une invention qui a une vingtaine d'années. C'est japonais. C'est deux choses. C'est comme si on mariait une plume, un stylo à plume, avec un pinceau. C'est-à-dire que il y a un réservoir, dans lequel on glisse, enfin dans lequel on fait couler de l'encre. Ce réservoir est souple et on monte dessus un pinceau. Voilà, donc c'est vraiment la relation de ces deux choses. C'est comme si on mettait une cartouche d'encre sur un pinceau. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai toujours en poche. Je pense que c'est une invention formidable, comme quoi, sur des choses aussi simples que ces sujets quotidiens, il y a toujours des choses à trouver. Pour moi, c'est une grande réussite. Voilà.
Ça n'a jamais coulé dans votre poche ?
Bien sûr.
Évidemment.
Il n'y a rien de plus difficile à faire qu'un siège. Ça, Corbusier l'avait formulé. Différentes manières de s'asseoir.
Et c'est le moment où vous avez dessiné cette extraordinaire chaise longue qui est rééditée depuis quelques années.
Oui, par Cassina. Oui, ça a été édité jusqu'à la guerre par Tonnet. Et puis depuis, je ne sais plus combien, 54 par Cassina. Les fauteuils jusque-là étaient faits d'ossature de bois, de crin, de sangle, etc. Mais on a fait une ossature, puis on a mis des coussins ou des tendeurs. Et on a laissé tomber tout ce métier de tapissier, de crin, de machin. Grâce aux techniques nouvelles, on a pu faire des choses nouvelles. Qu'est-ce qui peut amener des choses nouvelles ? C'est des matériaux nouveaux, c'est des techniques. Ce sont des nombres aussi. Il est certain que si on a une technique, peut-être, qui fonctionne pour 20 000 exemplaires. Et puis, c'est notre comportement.
Renan Bourlac, on entend Charlotte Perriand en 98 sur France Culture dans À Voix Nue au micro de Paul Chavas. On évoquait votre livre Day After Day, qui est une sorte de bibliothèque très impressionnante de vos inspirations, de vos œuvres, de votre environnement, de votre atelier, où on voit certains artisans, on voit des gens de votre famille, on voit des chats, on voit beaucoup de formes géométriques, des stries, des barreaux, des lignes parallèles, des dés. Moi qui adore les dés, je me suis dit que peut-être ça vous avait inspiré, et notamment pour les chaises. Et là, j'aimerais qu'on parle de chaises, puisque l'extrait a été choisi justement pour parler de chaises. Il paraît que vous avez été marqué notamment par deux chaises, la chaise zigzag de Gerrit Rietveld et la chaise numéro 209 d'Auguste Tonnet. Vous dites que c'est l'une des meilleures chaises des 150 dernières années. Alors moi, je veux en savoir plus.
Bon, alors la première, c'est quelque chose de très personnel, parce qu'à Quimper, il y avait un magasin qui était lié aux objets contemporains. Et donc il y avait cette chaise des années 30 de Gerrit Rietveld, qui est une chaise qui effectivement est un zigzag de bois avec un assemblage formidable, et elle m'a marqué, voilà, et ça reste une de mes chaises préférées, mais certainement pour ce souvenir adolescent. Et la chaise de Tonnet, une chaise formidable, parce qu'elle est dessinée à la fin du 19e, elle se démonte, c'est la raison de son succès, elle est démontable, on peut en mettre un certain nombre dans un mètre cube, elles sont livrées partout dans le monde, dès la fin du 19e, donc c'est le début de... C'est pour moi une des chaises les plus abouties en termes de design industriel, parce que c'est déjà le cas. La différence à l'époque, c'est que la main-d'œuvre était peu coûteuse en Europe. Le coût de la chaise était de 2 bières, donc le bois ne valait rien. Et la main-d'œuvre était calculée de manière tout à fait différente. Donc une chaise valait 2 bières, voilà.
Possédez-vous des choses LED ?
Oui, sûrement, mais de toute façon, le goût est une histoire de perception.
Oui, mais vous me faites penser à William Morris, vous savez, ce socialiste qui a fait le mouvement Arts and Crafts et qui était justement pour la beauté des objets et leur utilité et leur accessibilité et leur durabilité.
Bien sûr, enfin, pour moi, c'est pour ça que j'aime cette discipline, c'est de trouver des solutions, des alternatives, pour créer une forme de beauté, qu'elle soit partageable, qu'elle soit reproductible et que ça puisse, à la manière de millions d'autres choses, changer légèrement ce monde, oui, bien sûr.
Hommage à un objet dans le Standard de ce soir, ne raccroche pas, Sheila. Raccroche pas, Sheila, dans la 20e heure sur France Inter. C'est le thème composé par Frank Barcellini pour Mon oncle de Jacques Tati, film sorti en 1958, et c'est votre choix musical, Ronan Bourrelec.
C'est à la fois une musique formidable et un film extraordinaire et un cinéaste que j'adore.
Qui a beaucoup joué sur le design et les objets.
Ah, bien sûr, c'est pour moi, donc là c'est mon oncle, mais ça pourrait être Playtime, ça pourrait être Jour de fête. Pour moi, Tati c'est tout, c'est-à-dire qu'il fait des ponts entre toutes choses. Et donc là effectivement c'est mon oncle, c'est une histoire assez drôle parce que Monsieur Hulot va rendre... visite à sa sœur qui est mariée à un riche industriel qui a une usine de plastique qui s'appelle Plastoc et il a une maison tout à fait moderne dans les images de la modernité de l'époque et lui vit au dernier étage d'un immeuble parisien assez délabré mais bourré de charme et donc il fait des liens entre ces deux maisons. Il se joue beaucoup, c'était pas nostalgique du tout, il a été pris comme quelqu'un de mélancolique et qui avait un regard sur le passé, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui était très analytique, qui se jouait de tout. Et moi, la chose qui me... à chaque fois que je dessine un objet, je me demande bien si Tati était capable de s'en moquer ou si ça passerait quand même. Donc voilà, je pense que c'est toujours intéressant d'analyser ce que Tati aurait pensé de quelque chose.
Basically,
au fond,
l'activité
d'un artiste
is not taken seriously
n'est pas prise au sérieux
par les gens qui
sont censés soutenir cette activité. Et donc, au-delà de leur propre travail, les artistes n'ont pas d'intégrité, ne sont pas reconnus en tant que tels. C'est donc un combat avec les musées, mais également avec les galeries d'art.
Et
malheureusement, les galeries sont ce qu'il y a de mieux, ce qui veut dire que le commerce est mieux que les professionnels de l'art. Ça devrait être le contraire.
On entend le plasticien américain Donald Judd en 1991 sur France Culture. Ronan Bouroulec, je crois que le premier livre que vous avez possédé, c'était un livre de Donald Judd et c'est resté votre livre préféré pendant presque 2 décennies. 4 décennies.
Alors non, c'est un livre qui paraît, je crois que j'ai 22, 23 ans, donc c'est pas le premier, mais c'est un des livres vraiment très importants pour moi. C'est un livre à propos d'un lieu qui s'appelle Marfa au Texas. Judd est un artiste extraordinaire, minimaliste, je sais pas si le terme est juste, mais en tout cas de l'art minimal américain. Et d'un seul coup, ne supporte plus les galeries, ne supporte plus tout le système et décide d'acheter un lieu qui est le plus loin de New York possible, tout en restant aux États-Unis, et tombe sur une base militaire au Texas. Et il commence à utiliser cet endroit pour travailler, mais aussi pour installer des œuvres d'artistes qu'il aime. Et c'était un collectionneur fou qui pouvait à la fois collectionner les choses les plus radicales, mais en même temps de la poterie mexicaine. De chaque voyage, il ramenait des objets. C'était un érudit. Il avait effectivement les chaises Tonet, des choses d'Alvar Aalto. Il savait, pour moi, ce mélange à la fois d'un milieu, enfin, rustique, savoir mélanger effectivement un tapis indien avec une pièce anodisée en aluminium, pour moi c'était tout ce que je n'arrivais pas à comprendre dans mon amour des objets. Alors je pouvais être fasciné par l'hypertechnicité et en même temps je restais très lié à la manière dont on clôture un champ en Bretagne. Donc Judd mettait tout ça non pas sur le même plan, mais associait toutes ces images, toutes ces pratiques. Et moi, ça m'a énormément aidé à comprendre ce que je voulais faire, ce que je pouvais aussi aimer.
Alors, je rebondis, parce que vous avez parlé de poterie mexicaine, et je voudrais qu'on imagine qu'on se trouve au Mexique là pendant qu'on se parle, Ronan Bouroulec. Il y a un autre beau livre qui est paru sur votre œuvre, Triptyque, édité par Settel et Villanoa, où vous avez régulièrement exposé. Le texte est signé de Martin Betno, et il note l'aspect végétal de votre œuvre. Et moi, quand je vois certains de vos dessins, qui sont composés de plusieurs techniques et de beaucoup d'aplats de couleurs et de stries. Je pense à des cactus.
Alors je dessine d'une manière assez particulière. C'est qu'à l'opposé de la manière dont je travaille dans la journée, c'est-à-dire autour des objets, qui est quelque chose d'assez réfléchi, qui convoque un certain nombre de matériaux, qui nécessite encore une fois des discussions. Le dessin est quelque chose que je ferai comme une marche en fin de journée, c'est-à-dire que j'ai une feuille de différents formats, ça dépend de celle qui se trouve sous la main, j'ai des crayons de différentes couleurs, ça dépend aussi un peu de ce qui se trouve sous la main. C'est une pratique assez méditative et je pense que le dessin est réussi en général quand j'y pense pas trop, c'est-à-dire que il y a une ligne, puis une deuxième ligne, une troisième ligne, et à la fin je considère que c'est fini, mais avec une certaine distance, et j'empile des centaines, des milliers de dessins.
Cactus, ça ne vous choque pas?
Non, parce qu'il peut y avoir des références effectivement végétales, mais je cherche pas à représenter un cactus et je me dis pas que je vais représenter la nature. Les choses arrivent et on peut y trouver des choses. Ouais.
Ronan Bouroulec, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. J'ai beaucoup parlé de votre œuvre, mais peu de vous. J'aimerais vous poser des questions du tac au tac, si vous êtes d'accord.
Allez-y.
Quelle est votre plus grande qualité?
Là, le doute.
Votre plus grand défaut?
Le doute.
Votre plus grande peur?
Je suis claustrophobe.
Vous êtes monté à pied au studio?
Oui, j'ai pas pu prendre l'ascenseur.
Ah ouais, vous devez être essoufflé. Vos démons?
Oula, ils sont multiples. Ils sont secrets.
Secrets, d'accord. Et en dernier, une recommandation, n'importe laquelle, à lire ou à voir ou à respirer pour les auditeurs. Ça peut être un livre, un film, ce que vous voulez. Un remède à la mélancolie.
Je me répète, mais je pense que regarder Tati, c'est une bonne manière de trouver de la gaieté.
Merci beaucoup, Ronan Bouroulec.
Merci.
L'ouvrage Triptyque est paru aux éditions Settel et Villanoailles. L'ouvrage Day After Day chez Faydon. Et vous exposerez en mars à Paris à la Galerie Créo, en avril à Milan et en juin à Tokyo. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Irma Daniche et Franck Olivard. Programmation musicale, Juliette L'Orphelin. Technique, Laurent Baudouin.